Le soir, repensons notre quotidien.
Bonjour, vous écoutez À propos, le podcast d'actualité du journal Le Soir. Tous les jours, c'est l'expertise de notre rédaction dans vos oreilles. Émission entièrement consacrée aux déclarations d'Alexander De Croo sur le climat, notre Premier ministre voudrait mettre certains objectifs, notamment de protection de la biodiversité, en pause. Est-ce que ça a du sens? On a appelé un membre du GIEC pour avoir son point de vue. On s'intéressera aussi à l'aspect politique de cette déclaration, ce qu'elle dit de l'état d'esprit du Premier ministre. Est-ce qu'il place ses pions dans l'optique de la campagne électorale? Nous sommes le jeudi 25 mai, je m'appelle Pierre Fagnard. À propos, voici l'actualité, comme vous l'entendez.
Grand angle.
Alexander De Croo veut une pause dans les législations européennes sur la nature. Le Premier ministre a estimé dans une interview à la télé flamande qu'il ne faudrait pas surcharger la législation en accumulant des normes renforcées sur l'azote ou sur la protection de la biodiversité. Une position qui fait écho aux propos de la ministre flamande de l'Environnement, Zuhal Demir, et du président français, Emmanuel Macron. Est-ce que ça a du sens de faire une pause dans les lois climat? Est-ce que c'est pertinent d'opposer lutte contre le réchauffement et combat pour la biodiversité? Pour répondre à ces questions, on a appelé François Jemaine, politologue, spécialiste du climat et membre du GIEC.
Bonjour François Jemaine.
Bonjour Pierre Fagnard.
Comment est-ce que vous avez réagi quand vous avez lu les propos d'Alexander De Croo sur cette pause à faire dans les législations européennes sur le climat?
Je ne peux pas dire que j'ai été très surpris, parce qu'en réalité, dès l'instant où Emmanuel Macron avait ouvert la brèche, puisque c'est le premier à avoir réclamé un peu cette pause environnementale dans la législation, il était certain que d'autres allaient malheureusement s'engouffrer dans la brèche. Et donc, je ne peux pas dire que j'étais très surpris. Maintenant, il est clair que ça pose un vrai problème de gouvernement en Belgique, puisque, à l'évidence, ça grince des dents au sein du gouvernement.
Vous n'avez pas été surpris, vous avez été déçu, vous avez été effaré par ces propos.
J'ai été un peu consterné, parce qu'en réalité, je pensais qu'Alexander De Croo était plus libéral que ça et avait davantage le souci des entreprises du pays. Et qu'en réalité, dans sa manière d'opposer les préoccupations pour l'environnement avec les préoccupations des entreprises, je pense qu'en réalité, il crée une opposition qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui et qu'il plante un poignard dans le dos des entreprises. Très clairement, les entreprises, à mon sens, qui ne se transforment pas aujourd'hui pour devenir durables, ne seront pas non plus des entreprises rentables. Et donc, quelque part, en donnant l'idée que la transformation écologique est l'ennemi des entreprises, je crains malheureusement qu'il ne condamne certaines entreprises belges à rester à quai lorsque le train de la décarbonation de l'économie partira véritablement. Et il faut bien comprendre, et ça me paraît essentiel, que ce que redoutent le plus les entreprises et les marchés en général, c'est l'incertitude, c'est l'instabilité. Et donc l'idée de dire que la Belgique va se placer en retrait de ce qui est une évolution fondamentale de l'économie, je crains malheureusement que ça se rende très très mauvais service aux entreprises. Très clairement, les entreprises qui ne se transformeront pas face à cette contrainte nouvelle risquent de connaître un destin à la Kodak. Kodak, c'était cette firme qui était spécialisée dans la photographie argentique, qui a vu débarquer le numérique et qui n'a pas réussi à s'adapter suffisamment rapidement et qui malheureusement a disparu et a fait faillite. Eh bien, je crois que les entreprises aujourd'hui, quel que soit leur secteur d'activité, face aux questions de changement climatique, face aux questions de biodiversité, eh bien, je pense que les entreprises qui n'intégreront pas cela le plus rapidement possible, eh bien, risquent malheureusement de connaître le même destin. Et donc, je pensais sincèrement qu'Alexander De Croo avait davantage à cœur l'intérêt des entreprises de ce pays.
Vous l'avez dit, le Premier ministre belge n'est pas le premier à faire ce genre de déclaration. Emmanuel Macron l'avait déjà fait. Ça risque de devenir une espèce de posture politique de dire qu'on peut mettre la lutte contre le climat en pause.
Absolument. Moi, je crains beaucoup que ça ne soit une sorte de variable d'ajustement et qu'on ne considère au fond qu'on a l'occasion de se soucier du climat ou de la biodiversité, de l'environnement en général, uniquement après d'autres dossiers. Et il me semble qu'on n'a pas encore véritablement compris à quel point ces questions étaient des questions matricielles. Ce que je veux dire par là, c'est que toute une série d'autres enjeux politiques, économiques et sociaux vont dépendre profondément de notre capacité à intégrer cette donnée nouvelle, non seulement dans l'activité des entreprises et aussi dans leur modèle d'affaires et dans leur comptabilité, mais aussi dans la conduite politique d'un gouvernement.
Est-ce que ça a du sens de faire une pause dans l'effort? Parce que le réchauffement, évidemment, lui, il ne s'arrête pas. Et donc, tout ce qu'on met en pause aujourd'hui, on risque de le payer encore plus cher dans 10, dans 15 ans.
Bien entendu, d'un point de vue de protection du climat ou de la biodiversité, ça n'a aucun sens. Et on voit bien aujourd'hui que nous sommes littéralement rattrapés par la réalité et que, alors que l'effort aujourd'hui reste complètement insuffisant et pas du tout à la hauteur de l'urgence de la situation, et que toutes les voies, y compris, et j'insiste, y compris les voies dans les entreprises, disent qu'il faut au contraire accélérer et intensifier l'effort, l'idée de faire une pause et de se mettre en retrait, c'est, je crois, aller à rebours de la marche de l'histoire.
Dans la rhétorique d'Alexander De Croo, il y a aussi comme une opposition entre les efforts qu'on peut faire pour le climat, par exemple la réduction des émissions de CO2, et les efforts pour la nature, comme la préservation de la biodiversité. Ça a du sens d'opposer l'un à l'autre, parce qu'au final, tout est lié.
Tout est évidemment lié, et c'est vrai que c'est peut-être la partie de la déclaration qui m'a le plus surpris. C'est effectivement cette opposition qu'on fait entre les questions climatiques et les questions de biodiversité. Il faut rappeler que les enjeux sont profondément liés et que, bien entendu, le changement climatique est un des principaux facteurs. Ce n'est pas le seul, mais c'est un des principaux facteurs de destruction de la biodiversité et que nous sommes face à des enjeux systémiques. Là où il y a un point d'attention, et je pense qu'il est encore un point aveugle du débat public sur ces questions aujourd'hui, c'est dans l'opposition qu'il pourra parfois y avoir entre les questions de politique en faveur du climat et de politique en faveur de la biodiversité. Je vous donne un exemple simple. On se rend bien compte que pour réaliser la transition énergétique, nous allons avoir besoin de matériaux critiques, de lithium par exemple. Que la situation actuelle où nous allons chercher le lithium en Afrique, en Amérique du Sud ou globalement dans les pays du Sud pour l'exploiter en Europe n'est pas tenable et qu'il va falloir aussi sans doute ouvrir des mines de lithium également en Europe. Mais on sait par ailleurs que des mines et globalement toute politique d'extraction est une politique nocive et même assez catastrophique pour la biodiversité. Et donc le risque que nous allons avoir, c'est d'avoir des politiques en faveur du climat qui s'opposent à des politiques en faveur de la biodiversité. Et là, ça va demander des arbitrages politiques très forts. Sinon, nous allons avoir l'écologie du climat contre l'écologie de la biodiversité. Évidemment, ça serait pire que tout.
Une dernière petite chose, on vous a déjà entendu dire votre pessimisme quand on parle des réponses données aux problèmes climatiques. Ce genre de déclaration d'Alexander De Croo ou d'Emmanuel Macron, j'imagine que ça n'arrange pas votre pessimisme.
Effectivement, il est certain que moi, ce que je dis depuis longtemps, c'est que lorsque je regarde aujourd'hui les secteurs de la société qui sont en train de bouger, je vois surtout du mouvement au sein des entreprises et au sein des collectivités. Et très souvent, j'ai le sentiment que le politique est en retard par rapport aux évolutions de société, par rapport aux évolutions des entreprises, des collectivités. Et ces déclarations, malheureusement, ne font que confirmer ce que j'ai dit depuis longtemps, sans doute que nous attendons trop des gouvernements et que les gouvernements sont définitivement, pardonnez-moi l'expression, à la ramasse par rapport aux évolutions de la société.
Merci beaucoup, François Jomène.
Avec plaisir, Pierre Fagnard.
Les propos d'Alexander De Croo mardi soir dans l'émission Torzac ont énormément fait réagir, dans les rangs des associations qui défendent l'environnement évidemment, mais aussi dans les rangs du parti écolo, partenaire de gouvernement d'Alexander De Croo. C'était pas inédit de la part du Premier ministre, auteur d'une sortie sur les chômeurs le 1er mai et d'une autre sur le nucléaire il y a quelques jours. Alors est-on à deux doigts d'une nouvelle crise de gouvernement? Alexander De Croo agit-il comme Premier ministre ou comme libéral en campagne électorale? On fait le point avec Stéphane Van de Velde du Pôle Pouvoir. Bonjour Stéphane.
Bonjour Pierre.
C'est pas la première fois que Alexander De Croo dépose des cailloux dans les jardins de ses voisins, dans le jardin parfois même de ses partenaires de majorité.
Non, mais ce qui est marrant, c'est que c'est la troisième fois en un mois. Donc c'est tant le nombre de fois qu'il a fait que le nombre de fois en un mois. Et donc ça, c'est vrai que ça interpelle et on est donc en mesure de se demander pourquoi il agit de la sorte.
J'ai deux questions essentiellement à vous poser dans ce podcast. Est-ce qu'on est à deux doigts d'une crise et est-ce que Alexander De Croo a changé son fusil d'épaule, en tout cas changé sa manière de communiquer? On va commencer par la première. Cette histoire de loi sur le climat, c'est une question qui pourrait faire tomber le gouvernement Vivaldi?
A priori, non. On est plus dans une posture un peu politicienne, une tactique d'Alexander De Croo, qu'un vrai sujet qui pourrait faire tomber le gouvernement. D'autant plus que les matières environnementales sont principalement l'apanage des entités fédérées que du fédéral. Donc c'est peut-être d'ailleurs pour ça que cette fois-ci, Alexander De Croo a fait cette sortie sur ce sujet-là parce qu'il savait très bien que ça ne pouvait pas faire tomber son gouvernement.
Ça veut dire que c'est une sortie sans prendre trop de risques. Il allume une mèche, mais une mèche qui ne concerne pas directement le fédéral, et donc on ne pourra pas lui dire « ouais, mais c'est cette mèche-là qui a fait tomber le gouvernement ».
A priori, non, mais on n'est jamais à l'abri d'un emballement médiatique où les positions idéologiques des uns et des autres se crispent.
Pourquoi est-ce qu'il fait ça, alors, Alexander De Croo? C'est quoi son intérêt d'aller allumer cette mèche dans le jardin, je le répète, notamment de ses partenaires de majorité?
Si on reprend tous les propos, on est principalement dans des propos qu'on peut qualifier de bleu foncé, donc dans une philosophie et idéologie typiquement libérale, donc celle de son parti. On voit que son parti ne se porte pas bien pour le moment dans les sondages, et que donc le rôle qu'il tient jusqu'à présent est un rôle de chercheur de compromis entre différentes tendances. Donc sa tendance est peut-être moins marquée, et là il réaffirme sa tendance, il sort quelque part de son rôle.
C'est quand même un changement de cap un petit peu. Depuis le début de la législature, Alexander De Croo était essentiellement dans son rôle de Premier ministre, au-dessus de la mêlée, à défendre l'action du gouvernement. Là il agit plus comme le représentant de son parti que comme celui de représentant du gouvernement.
Oui, alors c'est pas la première fois qu'on lui reproche de sortir de son rôle. Il est déjà sorti de son rôle plusieurs fois dans des cairns, où certains lui disaient « Vous jouez quel rôle, monsieur De Croo, celui de président de l'Open VLD ou celui de Premier ministre ?» Mais en tout cas, c'est la première fois qu'il sort de son rôle plusieurs fois de manière public dans des événements ou dans des interviews. Pourquoi le fait-il? C'est simple, on est à un an des élections et à un certain moment, l'Open VLD a décidé de jouer pleinement la carte de son chef, et donc pas du président de parti, mais d'Alexander De Croo, et donc de se ranger derrière lui. Et il faut donc l'entendre, et il faut l'entendre sur des sujets qui sont libéraux.
Merci beaucoup Stéphane.
Merci Pierre.
À propos, c'est fini pour aujourd'hui, mais on revient demain matin. Merci de votre écoute. Si vous en voulez encore, tous nos podcasts sont disponibles dans l'application du soir. Rendez-vous dans le store de votre smartphone ou de votre tablette pour la télécharger. À demain.